premier plan du film, qui est en fait le panneau routier, enfin le panneau directionnel, je ne sais pas trop comment on dit, et qui indique donc trois directions, ce qui fait sens voilà, dans l'œuvre de Hong Sang-soo, puisque il livre en fait souvent plusieurs versions d'une même histoire ou d'une même situation dans ses films. Ces films sont rarement linéaires ou complètement continus. Ça bifurque très souvent, on revient souvent au point de départ sans jamais emprunter tout à fait le même chemin. Et face à ces, voilà, cette foule de possibilités, ces personnages apparaissent très souvent perdus. Ils errent voilà, sans vraiment trop savoir où aller. Comme c'est le cas de Song Joon au début du film quand il arrive à Séoul et voilà, qu'il se promène sans vraiment savoir où il va, ou quand il raconte voilà, qu'il a suivi une fille et qu'il s'est perdu en cours de chemin. D'ailleurs c'est assez rigolo, il y a un quasi regard caméra en fait, à un moment donné de Song Joon, où en fait il a presque l'air de nous appeler un petit peu à l'aide parce qu'il découvre que du coup la serveuse du bar elle ressemble comme deux gouttes d'eau à son ex-copine, et d'ailleurs elles sont toutes les deux incarnées par la même actrice. Peut-être qu'on en reparlera à une autre occasion. Marin, je ne sais pas si tu veux déjà rebondir sur ça.
Non, il me semble que tu avais un truc à dire sur, pour terminer sur ton idée de panneau directionnel. Ouais.
Oui, je pense que effectivement, je voulais parler du caractère, enfin de l'espace du coup, et du caractère très topographique du film. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de plans de lieux avec le nom des lieux à chaque fois. En fait, on peut vraiment s'amuser quoi à retracer. Enfin, d'ailleurs, je l'ai un peu fait hein, sur Google Maps en regardant. On peut vraiment retracer l'itinéraire des personnages. Voilà, ça tout se passe dans le même quartier en fait, qui s'appelle Bukchon, qui est le quartier traditionnel, enfin un des quartiers traditionnels de Séoul. D'ailleurs, peut-être qu'on reparlera des titres. Je m'égare un petit peu, mais le titre original signifie en fait en allant vers Bukchon. Donc ça, voilà, ça insiste vraiment sur cet aspect géographique. Donc une géographie qui est une géographie cohérente, mais aussi très intime. Voilà, le fait qu'il y ait peu de lieux et qu'on retourne à chaque fois dans les mêmes lieux. Voilà, ça donne vraiment une sensation de familiarité. Et qui est encore plus grande en fait du fait que Hong Sang-soo connaît vraiment ces lieux. C'est des lieux dans lesquels il va très souvent, comme le bar roman, tout un programme ce nom. C'est un bar que Hong Sang-soo fréquente lui-même. Il a pu tourner là-bas grâce à l'accord de la patronne qu'il connaît bien, patronne qui a vraiment une chambre dans ce bar.
Non, mais du coup, on a parlé du premier plan du film qui est un panneau directionnel, et c'est vrai que dans le dernier plan du film, il y a déjà une carte, donc comme pour dire, voilà, le personnage vraiment pose littéralement avec l'endroit où s'est passé le film, et il y a encore un peu à la manière, c'est pas un regard caméra cette fois, mais il a encore l'air très troublé, et il y a la musique qui repart. C'est de repartir de ce dernier plan parce que le film s'arrête à un moment particulier, à savoir que le personnage se fait prendre en photo. Donc, prendre une photo, c'est figer le temps. Et c'est justement un film où le temps n'est pas du tout figé explose de différentes petites façons. On ne s'en rend pas trop compte au début, et puis il commence à y avoir un trouble au fur et à mesure du film. Et puis, je pense, la deuxième fois qu'on va au bar Le Roman, et qui nous redit donc on est allé au bar Le Roman, comme si c'était la première fois qu'on y allait, il commence à y avoir un petit doute sur ce qui est en train de se passer temporellement dans le film. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça place le spectateur, enfin en tout cas, moi ça me fait ça, à savoir d'essayer d'établir une règle en fait, devant la plupart des films de Hong Sang-soo qui jouent avec le temps. C'est pas le cas de tous, mais il y en a beaucoup qui ont des dispositifs comme ça un peu originaux. Au fur et à mesure qu'on regarde le film, on essaye de comprendre en fait la règle voilà, qui régit le temps dans le film. Donc au fur et à mesure, là il y a des indices, on se dit ah tiens, en fait à l'extérieur le temps a l'air linéaire puisqu'il n'arrête pas de recroiser la même personne les jours suivants, et ils le disent dans leurs discussions qu'ils sont effectivement croisés la veille, mais dès qu'on est en intérieur, dès qu'on va au roman, il y a un peu un reboot où on refait les présentations. où on peut rejouer au piano comme si ça n'avait pas été le cas déjà. Mais le problème quand on commence à faire ça, c'est qu'il y a des incohérences là-dedans. Il va y avoir un truc que va dire un personnage qui va montrer qu'en fait, non, effectivement, il a déjà vécu ça comme on l'a vu dans le film. Et donc, en fait, pour moi, c'est un peu un piège et c'est pas ce qui intéresse vraiment Aung San Suu de trouver vraiment un dispositif qui fait sens, mais plutôt de se laisser happer par les sensations de déjà-vu, l'idée bah, du coup du panneau directionnel qui est exprimé dans le film, que nos vies peuvent prendre des directions très différentes selon des micro-changements. On le voit ne serait-ce que comment les personnages se placent autour des tables. Les plans ont l'air similaires, mais en fait c'est assez travaillé sur le placement de chacun. Il y a notamment un jeu autour de l'endroit où se place Boram. Donc Boram qui est l'ami de son ami, pour parler romérien. Et qui, voilà, au début, elle est placée, de notre point de vue, à droite de l'ami de Yang-ho. Et là, elle est un peu réceptive et tout ça. Et puis ensuite, dans la scène plus tardive, où elle parle de son chien, elle est à gauche. Et là, c'est le segment un peu douloureux du film. Tout ça pour dire que voilà, ce qui l'intéresse au fond, c'est pas la structure temporelle complexe, mais plutôt tous les espèces de liens bizarres qui vont nous évoquer à nous des choses qu'évoquent les personnages, à savoir le sentiment bizarre de reconnaître en fait ce qui s'est déjà passé. Et c'est là où on peut parler un peu de comment Aung San-Soo tourne ses films. Donc depuis un peu avant ce film-là, Aung San-Soo n'écrit plus de scénario. Il écrit un traitement, un synopsis. Et ensuite, il se lève très tôt le matin et il écrit le scénario pour la journée. Et les films sont tournés dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que si on retourne à un endroit dans le film, par exemple le roman, on pourrait se dire, dans une façon traditionnelle de tournage, qu'ils ont tourné toutes les scènes au même endroit d'affilée. Mais non, à chaque fois, ils repartent. Et par exemple, pour un film comme Un jour avec, un jour sans, je ne sais pas si les gens qui l'ont vu ici, qui est un film un peu plus long, donc sans sous, qui dure 2 heures, les 2 heures en fait sont vraiment en miroir. Il se passe 1 heure où on passe à travers toute une myriade d'endroits, et la deuxième heure repasse à travers les mêmes endroits. Et la légende veut qu'effectivement, après avoir tourné la première partie, Aung San-Soo ait dit bon bah on va la refaire et ça va être la deuxième partie, ce qui est une catastrophe économique pour des films sans budget. Mais donc en gros, le fait de les écrire comme ça fait aussi que la structure temporelle va être éclatée, puisque c'est à moitié improvisé en fait tous les jours. Et Aung San-Soo dit qu'il fait ça pour éviter en fait les clichés, parce qu'il sait que face à l'instinct il doit fournir quelque chose, il va forcément produire de la nouveauté par rapport à ses acteurs qu'il connaît, par rapport à aux choses qu'il a tournées la veille, etc.
Avant de reparler un petit peu du temps, je rebondis juste sur ce que tu disais sur la place des personnages, parce que c'est vrai que c'est toujours très important dans les films de Aung San-Soo. Il y a d'autres choses dans les films qu'on peut souligner. Moi, j'ai plutôt vu, mon attention s'est plutôt focalisée sur la place de Yong-ho, justement, qui est systématiquement placée entre Song-Joon et Boram. Et c'est une position un peu ambivalente, parce que c'est à la fois ce qui fait lien entre les deux personnages. C'est grâce à lui, en fait, que les deux sont réunis. Et peut-être qu'on peut se dire, en même temps, c'est aussi ce qui fait barrière entre les deux. Enfin, c'est pas, rien n'est jamais explicite, rien n'est jamais ancré, mais on sent à certains moments comme une ébauche de romance ou quelque chose comme ça, qui pourrait fleurir, mais qui ne fleurit pas, peut-être à cause de Yong-ho. Il y a aussi le rapport, le jeu entre Song-Joon et les étudiants. C'est vrai qu'au début, les cadrages mettent vraiment en valeur... ouais, quelque chose de l'ordre d'un collectif, quoi, en fait. C'est vraiment le groupe qui est cadré. D'ailleurs, c'est un peu l'effet aussi que produit ce dézoom, voilà, sur les quand ils trinquent ensemble et qu'ensuite on les voit tous les quatre dans le cadre, voilà, qui met vraiment en valeur cet aspect convivial, collectif du groupe, et plus tard dans la séquence vraiment hilarante, je trouve, où Sung Jun prend la fuite très, très lâchement. On voit déjà que, en fait, il y a le groupe des trois étudiants d'un côté du cadre et lui tout seul de l'autre. Voilà, donc les rapports sont déjà annoncés finalement sans que.
Il y a même une rupture à l'intérieur du plan, puisqu'au début, on a l'impression que ça se passe bien. Il propose aux étudiants d'aller acheter des fruits, parce que pourquoi pas. Et du coup, les étudiants, il leur dit d'entrer, et les étudiants du coup rentrent dans cette espèce de petite échoppe qui est gardée par une espèce de plastique qui les cache un peu. Et donc voilà, il y a une rupture nette qui se fait, et c'est à partir de ce moment-là en fait que lui va péter un câble. Et peut-être pour finir sur les compositions de plans, là en le revoyant, j'ai pu faire vraiment attention au plan peut-être le plus beau du film, qui est l'attente du taxi le matin, où ils sont 5. Et là, c'est vraiment très précis sur les placements de personnages et ce qu'ils font, à savoir qu'il y a Boram un peu en retrait, qui a l'air un peu énervé comme ça, et il y a un peu ce que tu dis de Jung-ho qui sait pas trop se placer entre rester avec son ami ou rester avec Boram, et puis Boram qui part d'un coup en courant, on sait pas trop pourquoi, et là t'as l'hésitation de Jung-ho et qui finalement part après elle. Enfin, tout ça est très composé avec évidemment l'acteur ivre qui retient quand même l'attention, et peut-être que ça nous amène à parler de l'ivresse chez Hong Sang-soo, petite perche.
Je te laisse en parler.
Ok, non. D'accord. Non, mais bon, tout bon, pour celles et ceux qui ont déjà vu des films de Hong Sang-soo, il y a toujours de l'alcool dans ces films. Il y a un truc assez intéressant avec l'ivresse chez Hong Sang-soo, c'est qu'en fait, elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'alcool rend lucide chez Hong Sang-soo. C'est-à-dire que le moment de la sobriété est un peu le moment des faux semblants, où les personnages exagèrent leur sourire, etc. Et avec l'alcool, il va toujours y avoir un moment dans les films de Hong Sang-soo que j'aime beaucoup, qui est un peu le moment des quatre vérités, où d'un coup il y a un silence et un personnage va dire mais toi, au fond, t'es égoïste, et c'est très très violent. C'est vrai que moi, avant de revoir ce film, j'avais un souvenir très mélancolique du film, sans doute lié un peu à la musique, à la scène de piano, tout ça, à la neige. Et je me suis repris toute l'amertume. C'est un film assez violent quand même. Enfin, le personnage est assez détestable et attise autour de lui tout un réseau d'ego assez violent. Et donc voilà, l'alcool qui amène à énoncer les quatre vérités des personnages. Et ce motif du trinquage pour faire césure, du genre ouais, on change de sujet, on trinque, et le personnage qui vient de s'engueuler, il accepte de trinquer quand même. Voilà, j'aime bien comment il y a, comme il fait des, Hong Sang-soo du coup fait majoritairement des plans séquences de discussion, mais à partir de petits motifs comme celui-là, il crée en fait différents espaces à l'intérieur du plan séquence. Et bon, ça, il le fait du coup par des éléments dans le plan, comme le fait de trinquer. C'est comme des petits chapitrages à l'intérieur du plan. Mais il le fait bien sûr par les zooms qui permettent en fait vraiment d'avoir différents plans dans un seul plan. Et c'est vrai qu'il y en a, beaucoup dans ce film-là. Parfois, il est plus économe. Lui, il est très instinctif aussi sur le zoom. Enfin, c'est vraiment sur le tournage, dire à son chef opérateur, il va le taper sur le genou, et le chef opérateur, il sait qu'il faut faire un truc. Mais voilà, ça crée une sorte d'espace-temps un peu différent, mais tout en gardant la logique de tant qu'on est dans un seul plan, l'espace-temps quoi, restera le même. Il n'a pas encore fait de film où dans un même plan, il y a ce trouble temporel qu'on évoquait tout à l'heure, qui est clos.
S'il n'y a pas d'intervention, je vais rebondir sur les zooms. On n'en parle jamais assez. Sur les zooms, il y a plusieurs usages qui en sont faits, des usages assez classiques où vraiment le zoom permet de mettre en valeur ce que va dire un personnage, souvent couplé d'ailleurs avec avec un des panoramiques. Il y a Le zoom qui permet aussi vraiment, bah d'ailleurs je pense que c'est la première utilité, le premier usage pardon, qu'on ait fait dans le film, qui va permettre de vraiment entrer dans l'intimité du personnage. Ce plan où on voit Song-jun marcher dans la rue. Tout à coup, voilà, on zoome sur le personnage et là, on commence à entendre sa voix off, à entrer dans les pensées du personnage. Et puis, il y a le zoom qui va vraiment amplifier une émotion. Voilà, c'est notamment le cas quand il voit la serveuse pour la première fois. Il y a un zoom sur son visage qui vraiment traduit son étonnement, en fait, de voir cette femme qui ressemble tant... voilà, la femme avec qui il a été, c'est le cas du baiser aussi, voilà, qu'amplifie une certaine émotion. Et moi, le zoom que je trouve le plus beau du film, sur le visage de Yong-ho, où vraiment là, enfin, c'est très beau parce que littéralement, en fait, on va plonger dans les souvenirs du personnage qui respire, qui est nostalgique et qui se souvient, et tout ça se traduit vraiment de manière, à travers ce zoom.
Oui, c'est très mystérieux d'ailleurs ce moment où il dit ça sent la même chose qu'avant alors qu'elle est juste dehors en train de fumer avec son copain. C'est assez mystérieux comme rapport proustien à la cigarette et à l'extérieur. Non, mais on peut peut-être parler un peu des personnages hongiens qui sont un peu toujours les mêmes, parce que ce qui est intéressant pour enfin terminer cette histoire de structure temporelle, c'est qu'un film de Hong fonctionne avec des échos à l'intérieur, mais en fait toute la filmographie de Hong Sang-soo est un peu le même film, et le voir en fait c'est, enfin il y a des ponts entre les films, des variations, et c'est un, ben voilà, c'est un cinéaste qui vraiment, c'est difficile en fait de voir un seul film tant il y a une œuvre en fait, voilà, où on va pouvoir jouer au jeu des échos. Les échos les plus récurrents, c'est quand même un personnage de cinéaste, de préférence qui ne fait plus de films, qui en a fait quelques-uns qui n'ont pas été beaucoup vus, qui est devenu professeur de cinéma, qui est un peu lourd avec les femmes, et qui est veule, lâche, enfin il affronte comme ça des sentiments très très négatifs sur tous ces personnages, et ensuite il y a les personnages féminins qui souvent vont être un peu plus lucides et vont percer le jeu, voilà, la lâcheté des hommes, mais c'est un peu moins le cas dans ce film, je trouve, où on reste beaucoup avec le personnage masculin. Et d'ailleurs il y a même un aveu du film là-dessus, qui est que le moment où du coup l'acteur explique son jeu de dire les qualités d'une femme en prenant deux extrêmes et qu'il tombera toujours juste. Ensuite, quand il essaye avec la fille qu'il a en face de lui, la patronne du bar, alors qu'elle est au courant que c'est un jeu, elle accepte tout de suite, elle dit mais oui, c'est vrai, et elle oublie qu'elle s'est fait avoir quoi, par une espèce de dragueur sous. Et oui, voilà, c'était juste pour dire que je trouvais que ce film avait quand même une place particulière pour... le fait que les filles se laissent un peu plus savoir dans celui-là. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'analyse hyper précise à vous dire là-dessus, mais ça m'a étonné.
Mais c'est vrai qu'on peut en parler justement un petit peu du rapport de genre, etc. Parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent taxer, enfin, Hong Sang-soo a pu se faire taxer un petit peu de misogynie. Et c'est vrai que quand on voit le film, c'est quand même un exemple de mansplaining pour tout le film. Voilà, les hommes expliquent en permanence, ont des grandes théories, c'est eux l'intelligence, et les femmes comprennent pas, elles ont l'air un peu bêtes. Voilà, on se moque un peu d'elles à certains moments, bien qu'elles soient toutes très attachantes, et les hommes aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en contrepoint, il y a vraiment cette... Enfin, les hommes en prennent aussi vraiment pour leur grade, ce qui semble rendre quand même la chose un peu plus complexe qu'une simple accusation.
Non, mais oui, sur les personnages, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont des réactions qui sont parfois très mystérieuses. Et Hong Sang-soo fait ça avec tous ses personnages, c'est-à-dire qu'on l'a souvent comparé... à Romère, mais c'est vrai que contrairement à Romère, il ne réalise pas du tout des contes moraux, c'est-à-dire qu'à la fin du film, il n'y a pas du tout de résolution ou de morale sur ce qu'a traversé le personnage. Ils sont toujours un peu coincés dans des boucles. Et voilà, et du coup, Aung San Suu garde comme ça voilà, des mystères sur des personnages, ce qui fait que lui se permet en fait d'être surpris par des choses que font ces personnages, ce qui fait que nous, on a aussi un rapport un peu mystérieux à eux. Et par exemple, moi j'aime beaucoup dans le film le moment où Boram s'énerve soudainement que la patronne soit pas là et laisse le bar sans personnel. Et voilà, elle s'énerve soudainement, elle commence à l'engueuler, elle continue une fois qu'elle arrive, et on ne sait pas du tout...
C'est une improvisation en plus, pour le coup. Enfin, c'est, j'ai lu une interview de l'actrice qui racontait que c'est vraiment une proposition qu'elle a faite. Ça raconte quelque chose de la méthode aussi de Aung San Suu. D'ailleurs, il y a autre chose qui me fait penser à la méthode, en revoyant le film, j'y ai pensé, mais c'est vrai, quand il raconte sur le personnage de Song Joon, la manière dont il apprend le piano... Voilà, qu'il essaye, enfin, qu'il fait une main pendant un mois, l'autre main pendant 2 mois, et les deux, le troisième mois, et qu'il a appris tout seul. Enfin, je sais pas, mais quelque part, ça me fait un peu penser à ce côté méthodique chez Aung San Suu et à la manière dont il a créé justement sa propre manière de faire des films.
J'ai l'impression que dans ce film, plus que d'autres, il y a beaucoup de discussions qui ont un caractère un peu auto-référentiel, enfin, un peu méta même sur sa méthode. Quand on remplace, si on fait l'exercice de remplacer certaines discussions, on parle d'individus par film, le côté mais les gens sont tous les mêmes, voilà, c'est ça.
C'est
et ça va être juste ce qui. Ouais, c'est ça, quand Young-ho parle à Boram, tu es spécial, pourquoi ? Parce que tu es pareil, mais tu es unique. C'est un peu la critique qu'on peut faire aux films d'Aung San Suu qui sont toujours les mêmes, mais qui finalement trouvent toujours. Leur unicité.
Et qui s'incarne particulièrement dans le fait que l'actrice joue deux rôles aussi. C'est à la fois la même personne et en même temps c'est deux personnes. C'est le cas d'ailleurs dans, je m'en souviens pas très bien du film, mais dans Yourself and Yours, il y a cette histoire de gémelléité un peu, enfin d'une femme qui serait à la fois la même et à la fois une autre. Effectivement, c'est le cas de ces personnages, c'est le cas à l'intérieur de ces films, des situations qui se répètent mais toujours de manière un peu différente, et c'est le cas en effet dans l'ensemble de sa filmographie.
Il y a une autre gémellité plus discrète d'ailleurs à un moment du film que j'aime beaucoup, c'est quand du coup c'est une des scènes où Seung Joon sort fumer, et il dit qu'il aimerait bien que la patronne du bar sort, mais finalement c'est Boram qui sort, et il discute un peu avec elle. Et là, il reçoit un texto du coup de Kyung Jin, et il se retourne, et il y a Boram qui reste toute seule en train de fumer. Et du coup, là, une voix off commence, qui commence à dire « Ah, je me sens si seule ». Et du coup, c'est comme si, comme on a la signature de Kyung Jin à la fin du texto, c'est un peu comme si c'était Boram qui parlait à ce moment-là. Enfin, on a un doute en tout cas pendant quelques secondes. Et j'ai l'impression que j'ai pas totalement tort d'avoir cette analyse, puisqu'il y a un peu plus tard, dans le film, Boram va dire elle aussi, je me sens si seule. Et ben voilà, il y a une infinité de petits points de connexion. Il s'amuse comme ça à dérouler en fait des fils un peu infinis de hasard et autres fantaisies.
Ouais, il s'amuse à brouiller les pistes. C'est vrai que pour revenir sur cette histoire, on arrête après avec ça, avec le temps et tout, mais c'est vrai que il y a cette histoire aussi. On n'a pas vraiment employé ces mots-là. Mais il y a l'importance de la mémoire et de l'amnésie. Donc c'est vrai que le film paraît comme ça assez continu, même si on peut avoir un doute, parce qu'il y a la répétition plusieurs fois, des barres, etc., qui donnent le sentiment de voir plusieurs versions d'une même histoire. C'est le cas dans Un jour avec, un jour sans, où c'est les deux fois en fait la rencontre entre un réalisateur et une jeune femme, mais d'une manière avec des variations. Mais ce qui contredirait un petit peu cette continuité, c'est effectivement la mémoire qu'ont les personnages de certaines scènes qui se sont passées avant. Et on le voit très bien quand Song Joon s'enfuit encore devant, c'est une très drôle aussi, s'enfuit en revoyant les étudiants. Voilà, sa réaction traduit le fait qu'il se souvienne de ce qu'il a fait, comment il les a abandonnés lâchement dans une scène précédente. Et puis c'est vrai que quand il recroise l'actrice, à chaque fois il se parle de choses dont ils ont déjà parlé, etc. Et en même temps, en face de cette mémoire, il y a aussi l'amnésie de...
La patronne du bar, j'ai oublié son nom aussi.
Oui, moi aussi, qui ne se souvient pas du baiser. Et ça, l'amnésie, c'est quelque chose qui parcourt aussi tous les films de Hong Sang-soo, je crois qu'un des exemples qui m'est le plus resté en tête, c'est dans Night and Day. C'est un personnage, un homme coréen qui est de passage à Paris et qui croise son ex dans la rue et qui ne la reconnaît pas, ce qui est scandaleux. Enfin, elle est scandalisée, c'est bien normal. Donc voilà, il y a ça qui effectivement sème le doute. On en vient à se dire... Ah, mais en fait, elle se souvient pas. Est-ce que ce baiser a vraiment eu lieu ? Tout à coup, on en vient à se questionner sur la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que la notion de réel et de rêve, de fiction, chez Hong Sang-soo, c'est toujours quelque chose qui s'entremêle beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un moment donné où le personnage de Song Joon se réveille. Enfin, il s'est endormi quand il est chez Yong-ho. Et il se réveille, et c'est vrai que Hong Sang-soo, quand un personnage se réveille après avoir dormi, ça arrive souvent que ce qu'on a vu avant relève, enfin, on l'interprète comme relevant d'un fantasme. Donc voilà, on se questionne en fait sans arrêt, effectivement. Enfin voilà, ça sème le doute en tout cas sur cette pure continuité.
S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose peut-être.
Moi je rebondirais juste peut-être sur les personnages. C'est vrai que. Hong Sang-soo, il parle de ses personnages comme des oignons qui ont plusieurs couches. Et c'est vrai qu'il y a un des personnages, je crois que c'est la serveuse qui le dit, j'ai plein de facettes, j'ai différentes facettes. Et effectivement, on remarque quelque chose particulièrement dans ce film-là, c'est que les personnages n'arrêtent pas de se décrire les uns les autres. Voilà, ils se disent « toi tu es comme ci, toi tu es comme ça ». Comme s'ils cherchaient, en fait, ça apparaît en fait comme une tentative finalement de figer les personnages dans une essence, dans quelque chose qui ne bougerait pas, alors même qu'en fait, on le voit bien, leur identité, elle est mouvante, elle bouge sans arrêt. Ils sont dans la contradiction permanente, ce qui se traduit souvent d'ailleurs parfois, et on en a des exemples. Dans le montage, c'est vrai qu'il y a cette coupe très brutale entre le moment où Song Joon va dire à Kyung Jin, c'est ça, ouais, qu'il l'aime, et il y a un arrêt brutal, une coupe brutale, et le plan suivant, c'est sur les pieds de Song Joon qui dit je ne reviendrai plus jamais. Voilà, donc enfin voilà, comment le montage exprime avec force la contradiction des personnages.
Non, c'est bien dit. Mais d'ailleurs, moi, j'ai toujours un doute sur cette scène de réveil, parce que j'ai un peu l'impression, dans ce qu'ils se disent la veille sur comment ils se sont quittés, que c'est un peu aussi une version du moment où ils se sont quittés 2 ans auparavant. Et que donc, si on garde la thèse d'une structure temporelle éclatée, les textos qu'il reçoit plus tard dans le film, il a vraiment pas vu Kyung Jin. Depuis 2 ans. Enfin, en tout cas, il y a, à part la façon dont les personnages sont habillés, ce qui participe aussi à Stroom, parce qu'il est habillé pareil pendant les 4 jours. Voilà, à part ça, j'ai l'impression qu'il travaille aussi cette idée de flashback possible, discret, ou en tout cas de version possible de la façon dont ils se sont quittés 2 ans auparavant, et qui ressemble bien sûr à la façon dont il quittera le personnage. Il fait des promesses d'amour terribles, je ne vis que pour toi, et après le lendemain, il s'en va, il ne doit jamais les revoir.
On n'a pas parlé du titre, titres. Donc je disais au début qu'effectivement le titre original, je ne vais pas m'essayer une prononciation en coréen, mais signifie donc en allant vers ce quartier de Bukchon. Le titre anglais « The Day He Arrives » et le titre français « Matin calme » à Séoul. L'idée n'étant pas de dire ce qu'on préfère ou quoi, mais c'est vrai que ça me semble avoir... Enfin, le titre original et le titre anglais me semblent avoir plus de sens. Ils traduisent tous les deux l'idée du voyage, l'idée de personnage en déplacement, ce qui revient énormément dans la filmographie de Hong Sang-soo. Là, le personnage de Song Joon, par exemple, il revient à Séoul, mais après être parti... habité à Daegu, au sud-est du pays. On pense à In Another Country, où la Française Isabelle Huppert arrive en Corée, à Night and Day, où c'est un Coréen qui est à Paris. Seul sur la plage la nuit, introduction qui se déroule en partie en Allemagne. Et c'est vrai que le titre français, du coup, bon, paraît un peu empreint d'exotisme. Enfin voilà, le pays du matin calme, etc. Surtout que les matins ne sont pas si calmes chez Aung San Suu. On a souvent la gueule de bois, on se dit adieu. Enfin, c'est, voilà. Donc c'est...
Non, c'est bien dit. Mais d'ailleurs, le titre anglais de Day Arrives indique un peu le fait qu'on voit plusieurs fois la même journée. C'est ça qui est curieux, c'est que... le titre, moi je savais pas en fait que c'était pas une traduction littérale. On en apprend des choses ce soir. Et du coup, oui, ouais, c'est aussi pour ça que j'étais parti moi sur la structure, mais c'est vrai que c'est un titre qui indique déjà le fait de la répétition. Et d'ailleurs, les trois premiers jours où il est là, il dit toujours bah, je vais rester 3-4 jours, bah, je vais rester 3-4 jours.
C'est la première fois que je voyais le film, mais ça m'a frappé parce que vous avez parlé au tout début de votre intervention. Je vous fais peut-être faire un aller-retour, mais la question de la carte et du quartier, enfin voilà, du déplacement. Ouais. Et en fait, alors c'est quelque chose qu'on remarque, qu'on note presque plus parce qu'on a tellement l'habitude avec Aung San Suu, mais il n'y a pas de travelling en fait. Il y a beaucoup de zoom, de panoramique, mais la caméra, elle n'avance jamais. Ouais. J'ai l'impression que ça participe aussi d'une espèce d'étrangeté spatiale très bizarre quand à chaque fois qu'ils allaient dans le bar, le roman. On les voit pas vraiment passer la porte, enfin il y a quelque chose comme ça, on a l'impression qu'ils se téléportent et tout ça, enfin ouais. Ça me, enfin vraiment un sentiment très bizarre, je sais pas si vous avez vu les autres films de Aung San Suu, je sais pas cette période-là, j'en ai pas vu beaucoup, je sais pas s'il y a des travelling dans ces films en fait, enfin j'ai pas l'impression, ouais. Et je sais pas quoi dire par rapport à ça vis-à-vis de cette espèce de déplacement qu'il y a, pourtant les personnages n'arrêtent pas de bouger, en même temps la caméra elle est toujours fixe quoi.
Non, c'est juste pour l'entrée du bar, le roman, moi je trouve ça intéressant effectivement comment il le filme parce que ça comme c'est l'endroit où la nature temporelle est la plus floue, et c'est vraiment filmé comme une entrée magique. Et on voit la guirlande qui clignote au fond, et donc c'est vraiment le plan qui revient exactement pareil trois fois. Non, sur les travelling chez Aung San Suu, je n'ai jamais vu de travelling chez Aung San Suu. Je sais que le zoom est apparu avec Conte de cinéma en 2005, ce qui a pas mal changé sa mise en scène. Peut-être que moi, j'ai pas vu les tout premiers films donc Aung San Suu peut-être qu'il y en avait. Je pense que c'est beaucoup une question économique, à vrai dire, et liée aussi à la petitesse de ses équipes de tournage, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très peu, et que voilà, ça arrive souvent que Aung San Suu, quand il tourne pas dans un café où on lui a laissé les clés, il tourne dans des cafés alors qu'il y a des clients, donc il est un peu discret, et quand il est à l'extérieur, il a pas toujours les bonnes autorisations, tout ça, donc il se cache un peu, et c'est vrai que les rails de travelling, c'est tout de suite un peu compliqué. Mais je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus, Chloé.
Non, pas vraiment. Enfin, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que ça dessinait une géographie cohérente, intime, mais c'est vrai que c'est un peu une géographie en pointillé, quoi, aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que dessine, effectivement, ce côté un peu elliptique, quoi, de certains...
Et par ailleurs, avec le zoom, le zoom allié au panoramique, c'est-à-dire qu'il commence à tourner en étant très loin de ses comédiens. Puis, avec la possibilité de zoomer et de panoter, il y a un peu quand même un effet de... Enfin, il peut suivre ses personnages quand même assez longtemps et garder un sentiment de fluidité, surtout que plus on zoome, plus on a l'impression de flotter. Enfin, plus chaque mouvement est un peu plus léger. Donc, je pense juste qu'il arrive à s'en passer et qu'il aime bien être derrière la caméra sans que la caméra bouge quoi.
Pour terminer, je sais pas, mais sur un mot que tu viens d'utiliser, Marin, qui est employé dans le film, qui est l'adjectif magique, parce que c'est vrai que donc ici ça s'incarne effectivement à travers ces rencontres hasardeuses qui sont décrites comme voilà, comme magique, comme de l'ordre du prodige. Mais il y a quelque chose qui est une vraie merveille dans plusieurs films de Aung San Suu, c'est la neige. Qui très souvent en fait apparaît de manière quasi fantastique. C'est le cas dans Hotel by the River, c'est le cas dans son dernier film, Introduction, où un personnage s'endort et quand il se réveille, tout à coup, il neige comme si ça venait précisément d'apparaître par magie. Et c'est une merveille, mais ça révèle aussi le caractère, l'émerveillement, la capacité d'émerveillement. Des personnages, on le voit très bien avec Song Joon à la fin, voilà, qui s'amuse comme ça à toucher la neige, avec Boram qui contemple aussi la neige. Et c'est vrai que pour moi, c'est un des plus beaux aspects de son dernier film, Introduction, c'est précisément cette capacité voilà, d'émerveillement qu'ont les personnages, et en particulier les jeunes personnages, voilà, qui, c'est vraiment ce qui va la caractériser. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite fortement à le faire.
On va peut-être s'arrêter là, du coup. Si personne n'a quelque chose à dire en plus. Non, bah, merci beaucoup d'être venu voir ce film et d'être resté pour le débat. À bientôt.